toujours au Proche-Orient.
Pas le moyen pour répliquer.
Ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on n'a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède?
Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
D'afficher la poubelle.
Hola, bienvenue sur Radio Canus si vous nous rejoignez. Vous êtes à l'écoute de la plus rebelle des radios et on tient à saluer ce soir tous les camarades de Lillois et Lilloises qui nous écoutent. Nous sommes toujours très heureux et heureuses de savoir que nous dépassons notre petit studio, notre petit bocal ici à Lyon, en bas des pentes de la Croix-Rousse. En tout cas, nous sommes le jeudi 21 octobre et nous sommes ensemble pour une heure d'information avec Laurent ce soir. Nous partirons en Russie des opposants et des opposantes qui ont quelques soucis, du prix des Covid, enfin voilà, c'est pas facile en Russie. Avec moi, je vous emmènerai au JO de 2022, de 2024 et de 2032. Ah oui, c'est ça qui est bien avec les JO, c'est que c'est un peu tout le temps, hein, voilà. On en pense toujours la même chose, c'est du caca, mais faut pas le dire trop fort. Nous parlerons aussi avec toi Laurent, j'en bafouille, des extrêmes droites, parce que maintenant il y en a plein, elles se font toute concurrence. Ça va être sympa ces élections. Nous irons du côté de la CPAM de la Manche qui fait causer dans les chaumières. Nous parlerons de la France qui assassine et puis peut-être un peu d'art et d'érotisme, de porno, de nu, enfin plein de choses à la fin pour terminer. Mais d'abord, je voudrais vous dire que grâce à Corinne Caillot, qui écrit sur le Figaro.fr, j'ai appris qu'aujourd'hui, c'est la 19e édition de J'aime ma boîte. Si vous nous écoutez régulièrement,
ça faisait longtemps, ouais.
Vous savez que j'adore cette journée, enfin ce moment magnifique, qui est un hymne, un hommage à nos entreprises. Je vous assure. Alors cette année, c'est Olivia Grégoire, vous savez pas qui c'est, je vais vous le dire, c'est la secrétaire d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable, qui est la marraine de cette édition de J'aime ma boîte. Je sais pas si vous vous souvenez du petit jingle que je vous avais passé une fois là.
C'était il y a longtemps. D'époque.
Ah ouais, mais longtemps. C'est resté dans ma tête. Je vais pas vous la chanter, je ne sais pas chanter. Alors, tout ça a amené donc un sondage d'Opinion Way. Bah oui, parce que du coup, avec J'aime ma boîte, on se pose des questions de savoir si vraiment on aime nos boîtes. Alors, d'abord, il y a eu un sondage Opinion Web pour savoir les salariés. Alors, je vous rappelle qu'on parle de sondage, c'est-à-dire de micro-gens interrogés de façon plus ou moins pertinente. Et on nous fait croire que ce sont des grandes études sociologiques menées sur 2, 3, 4 années. Hein. Non, on nous fait pas croire ça, juste qu'on continue à nous faire croire que c'est un intérêt primordial. En tout cas, pour la prochaine présidentielle, les sondages continuent à apparaître, alors qu'il y a quelques années, les médias s'étaient flagellés devant nous en nous expliquant qu'il fallait arrêter les sondages, que c'était du caca dans la boîte, hein, mais pourtant ça continue. Alors là donc, on apprend que 27% de ces salariés heureux aiment Emmanuel Macron.
Ah.
D'abord, enfin en tout cas c'est Emmanuel Macron qui le place
en tête.
Et elle place en tête de ces futures élections présidentielles, de cette future élection présidentielle. On a Marine Le Pen qui se place pas loin, hein, tout ça, pour parler de l'extrême droite, mais à peu près voilà, bien placé finalement. Hein. Et puis on a dans ce sondage un truc un peu bizarre, c'est qu'avec 16 points, c'est-à-dire mieux placé que Marine Le Pen, on a Arnaud Montebourg.
Qu'est-ce qu'il vient faire là?
Bah je sais pas.
Il vend du miel en fait.
Partout sur ce sondage, tout le monde se demande ce qu'il vient faire là.
Ouais, on le voit partout, il a tourné, donc chez les petits jeunes libéraux, tout ça, il doit plaire un petit peu avec son miel made in France, tout ça là. Si vous votez pour lui, vous avez un pot de miel, ça aide quand même.
Oui, ce qui est marrant dans ce sondage, c'est que de fait, il est très différent de ceux qui nous sont proposés sur France Info, par exemple, puisque Xavier Bertrand est quatrième, et puis on a ex aequo, par exemple, Philippe Poutou et Nicolas Dupont-Aignan, Valérie Pécresse, Yannick Jadot. C'est-à-dire qu'on a des espèces de mouchoirs de poche. Ça va être flou ces élections, je vous le dis, ça va être très marrant.
En plus, alors, tu l'as dit, un sondage ça sert à rien,
voilà,
ça représente
alors,
rien.
Par contre, ce qui est marrant dans ce sondage, c'est évidemment la vraie question de J'aime ma boîte. Est-ce que nous apprécions nos entreprises? Alors pour ces petits sondés, 65% apprécient leur entreprise, hein, ce qui est pas mal. On peut se dire qu'il y en a de l'autre côté qui n'apprécient pas leur entreprise.
Oui, ça fait déjà beaucoup.
Voilà, alors on se rend compte que assez rapidement, chez les 25-34 ans, 69% apprécient leur entreprise. Alors là, on se dit que la salariée n'est pas encore bouffée par le travail et par l'entreprise, donc elle est tout contente de commencer sa carrière. Ça se passe bien chez les cadres. Bon, on se dit que la plupart des cadres sont pas trop mal, finalement, ont des conditions pas trop désagréables par rapport à des ouvriers, des ouvrières et des employés. Et puis c'est dans les PME que ça va mieux, parce qu'on sait que les multinationales ont quand même tendance à pas mal pressuriser finalement même leurs cadres, en particulier leurs ouvriers, leurs ouvrières aussi. Donc on n'est pas très surpris par ces chiffres. Ce qui m'a intéressé, c'est un peu plus loin, il y a 54% des salariés qui déclarent avoir du plaisir à travailler, 33% moyennement, 12% peu ou pas du tout. Moi, je trouve que ça fait quand même que 54% qui ont du plaisir à travailler et que tous les autres, toutes les autres, sont quand même déjà vachement moins emballés.
Non, mais en fait, ils devraient poser une question autrement. On dit, si on vous donne 120 millions, je sais pas combien il y avait au loto l'autre fois, là, 120 millions aujourd'hui, est-ce que vous continuez à aller travailler dans votre entreprise?
Il y a des gens qui vont dire qu'ils vont monter leur propre boîte, c'est ça, tu vois.
Le truc, c'est que je suis pas sûr qu'il y ait 54%, là, qui continuent d'aller bosser quand ils ont plein d'argent. En fait, t'as toujours, vu comme la question est posée, t'as tendance à répondre, oui, c'est pas si pire, tu vois.
C'est qu'on a ce problème quand même avec les retraités, c'est qu'aujourd'hui, certains et certaines s'ennuient à la retraite, ne savent pas s'occuper parce que le travail
a pris toute leur vie, a pris
une place tellement importante qu'à un moment, on a aujourd'hui des retraités et des retraités hommes et femmes qui n'ont pas su s'accaparer une vie personnelle autre que le travail, même avec un peu d'argent, et c'est un peu dommage.
Ouais, alors on va faire un tour en Russie, j'ai appelé ça grince en Russie. On n'y va pas souvent, on n'est pas des grands spécialistes, même si on parle russe couramment, mais ça vous le savez pas. On est allé voir...
j'attends que tu prononces trois mots en russe,
ouais,
et je rigole après.
Ça va être chaud tendu. On commence avec, différentes choses qui ont fait grincer des dents en fait en Russie. Alors hier, le Parlement européen, alors c'est à l'initiative du Parti populaire européen, c'est le principal groupe de droite et c'est le principal groupe politique au Parlement européen, mais ça a été voté par plein d'autres, notamment les centristes, tout ça. Ils ont décerné l'équivalent du prix Nobel de la paix, mais la version européenne. On appelle ça le prix Sakharov. Donc le prix de défense des droits de l'homme et de la liberté de penser. Ça, c'est le terme officiel. Ils l'ont donné à qui ? Ils l'ont donné à Alexis Navalny. Vous imaginez bien, ça n'a pas plu. Hein. Du coup, ça grince à mort des dents du côté de la Russie et des fans de Poutine. Alors, c'est le président du Parlement européen, David Sassoli, qui a félicité, donc sur Twitter, parce qu'il ne l'avait pas devant lui, il est en prison, il a félicité donc l'heureux vainqueur, enfin je ne sais pas si on est heureux vainqueur d'un prix comme ça, en affirmant, je cite, qu'il s'est battu sans relâche contre la corruption du régime de Vladimir Poutine. Cela lui a coûté sa liberté et presque sa vie. Le prix d'aujourd'hui reconnaît son immense bravoure et nous réitérons notre appel à sa libération immédiate. On va pas faire un débat sur Navalny, fréquentable ou pas fréquentable. La question, c'est qu'effectivement, il a rien à faire en prison. On rappelle donc effectivement qu'il est en prison. Il a été arrêté quand il est retourné à Moscou en janvier 2021 après son séjour en Allemagne. On rappelle qu'il est allé dans les hôpitaux, sinon il était mort puisqu'il avait été empoisonné par un agent neurotoxique, vraisemblable vraisemblablement par l'État russe. Bien évidemment, on n'a aucune info fiable ni officielle, parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'enquête. Hein, vous connaissez la Russie. Hein. Donc on ne sait pas qui a fait cette tentative de morte, mais on a quand même d'énormes doutes. En tout cas, ce militant politique, hein, qui est un vieux militant politique russe, 45 ans. Donc là, il a pris 2 ans. Alors, il trouve des excuses, comme tous les régimes un peu totalitaires ou autoritaires. Il trouve des excuses, donc il a pris 8 mois pour violation présumée, pour une affaire de fraude et 2 ans pour une affaire de présumée violence. Voilà. Alors c'est la réaction. Alors ça a commencé. Je vais faire quelques réactions. Un site russe qui s'appelle Politica, Segonia. Donc toi, j'arrive à prononcer les mots russes quand même. Ils ont dit le blogueur Navalny purgeant une peine de prison. Donc ils insistent bien. Devient lauréat du prix Sakharov 2021 en laissant entendre un criminel. Puisqu'il est criminel s'il est en prison, c'est un méchant. Voilà. Alors on a aussi le député de Crimée qui s'appelle Sergueï Tchekhov, qui s'est exprimé sur le site news.ru, évidemment, qui a dit, et là j'adore, je vais monter un fan club de ce personnage, il a dit, parce que lui il a repris le nom du prix, parce que le prix s'appelle Sakharov quand même, il a dit... qu'il n'était pas surpris par la décision du Parlement européen qui est conforme, d'après lui. Alors pourquoi ? Il dit, car le physicien nucléaire et le militant des droits de l'homme Andrei Sakharov et le blogueur Navalny ont une vision similaire. Et il explique, le premier a œuvré à la désintégration de l'Union soviétique, donc c'est mal, hein, bien évidemment, et le second veut l'affaiblissement de la Russie. Tous deux sont des âmes perdues. En Europe, on aime les inflexions ronflantes comme prix de la liberté. Mais derrière ces mots se cache la russophobie et la haine de tout ce qui est russe. Voilà. Donc du coup, il en profite pour attaquer, il ne s'agit qu'a priori de l'URSS, et il attaque à la fois Sakharov, c'est pas tous les jours qu'on attaque Sakharov, qui est un peu une légende de l'opposition au soviétisme. Bref. Ça serait drôle si ce n'était pas la réalité quand même de tous les jours, et qu'il y a des gens en prison en Russie comme ailleurs, mais beaucoup en Russie. Faut savoir qu'il y a quelques jours, donc avant l'annonce, on savait qu'il était sur la liste, Navalny, sur la liste des futurs, enfin des potentiels gagnants. Il était dans les nominés. Et ça avait déjà fait réagir pas mal de gens en Russie. Donc voilà, c'est bon. Il y a eu pas mal comme ça de réactions. Alors Poutine n'avait pas encore réagi, mais tous ses amis, ces clones qui sont derrière là, qui attendent, qui chutent pour prendre sa place, ils sont allés de leurs petits commentaires russes, parce qu'ils dénoncent bien évidemment la russophobie. Ils disent tous qu'il y a des forces qui veulent déstabiliser la Russie, et c'est pour ça, il est payé, Navalny, par des forces déstabilisatrices. Voilà, ils n'ont pas bien compris la notion de démocratie, tout ça, qu'on aime. Tout le monde ici rêverait qu'il y a un peu un semblant de démocratie, au moins un semblant, mais non. Enfin, ils sont presque un semblant, ceci dit. Bon, bref, on va aller cette fois du côté du prix Nobel de la paix, toujours pour, avec les Russes, parce que ça a déjà grincé il y a quelques semaines avec le prix Nobel de la paix, on va revenir dessus. Donc ils ont décerné le prix 2021 à 2 personnes, au rédacteur en chef du journal russe d'opposition de Novaya Gazeta, que j'ai perdu le truc, et je vais quand même le dire, ça n'a rien à voir, mais c'est la deuxième personne qui l'a eu, c'est une journaliste qui s'appelle Maria Ressa, qui vient des Philippines. Donc le président de la Douma était très énervé, Vyacheslav Volodin, qui a proposé de lancer une procédure de révocation du prix Nobel de la paix. Alors ça existe vraiment. Donc il a expliqué ça sur sa chaîne Instagram, puisqu'il a dit que il y a eu pas mal de gens qui ont eu le prix Nobel de la paix, comme Barack Obama, Mikhail Gorbatchev, Aung San Suu Kyi, le premier ministre éthiopien, on s'en rappelle pas bien, Abiy Ahmed, parce qu'il avait fait une réconciliation, et il dit, assez justement d'ailleurs, ces lauréats auraient par la suite commis des actes de graves erreurs ayant conduit à des guerres et à des génocides. C'est pas mal vrai, quand même. Le premier ministre éthiopien, maintenant il est dans une belle guerre où il massacre à tour de bras. Aung San Suu Kyi, elle a collaboré à mort avec la junte. Gorbatchev, il a fait chuter l'URSS quelque part, et ça, il y en a qui le reprochent. Barack Obama, finalement, il a poursuivi les guerres américaines. Donc effectivement, tous ces gens sont un peu la honte du prix Nobel de la paix. On est bien d'accord, mais ça justifie pas que le journaliste russe, lui aussi, il soit déchu de son prix. Alors c'est ce qu'ils veulent faire, donc ils vont faire une procédure. Alors c'est assez drôle, hein, parce que ce président de la Douma, là, Donc un élu, on se dit bon bah il est pour que dès qu'on fasse une faute, on soit révoqué. Et on se dit, tiens, est-ce que les citoyens russes ont le droit de le révoquer en tant que député? Parce que, par exemple, il remplirait pas ses fonctions, il n'assisterait pas aux réunions, il ne rédige jamais de projet de loi, il ne prend jamais la parole. C'est exactement le cas de ce personnage, hein, qui participe quasiment pas. Et ben non, le président de la Douma, comme les députés russes, ils sont comme les députés chez nous, ils sont irrévocables. Donc sauf truc extrême, bien évidemment. Donc en fait, voilà, c'est la politique politicienne russe finalement est aussi hypocrite que ici. C'est je ne suis pas révocable, mais je demande la révocation des autres. Voilà, c'est le petit côté. Les Russes sont énervés en ce moment. Alors toujours sur la Russie, c'est la cata. Alors ils ont quand même pas mal d'ennuis. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que Poutine et d'autres n'ont pas forcément réagi sur le prix Sakharov. C'est que là, ils galèrent avec le Covid. Ils ont une vague énorme qui tue à tour de bras plus de 1000 personnes par jour. Vous allez me dire, c'est un peu grand la Russie. D'accord, ils n'arrivent pas à endiguer. Et du coup, ils prennent des mesures à l'arrache. Voilà, donc j'ai annoncé aujourd'hui des mesures. On ferme tout. Et un truc marrant, Poutine a annoncé que début novembre, il y aurait une semaine de vacances pour tout le monde. Parce que en Russie, quand on ne fait pas du confinement, alors c'est presque du confinement, parce qu'en fait, tous les trucs pas nécessaires, les restaurants, les salons de beauté, magasins de vêtements, de meubles, tout ça, ça va tout être fermé là pendant 8 jours. Mais en Russie, on se dit quand même, on donne des vacances. Bon, c'est un concept un peu russe. Moi, si on me donne des vacances et qu'on me les paye, je trouve ça bien comme concept. Hein. Je ne vais pas dire le contraire. Mais en tout cas, ils sont vraiment dans la panique totale. Ils ne savent pas comment faire. Ils essayent de trouver. Alors, ils vont mettre en place un pass sanitaire. Ils ont 32% seulement de gens vaccinés. Du coup, ils ont non seulement des gens qui tombent malades, mais des gens qui vont à l'hôpital. Et on imagine bien que déjà, l'hôpital, c'est pas glorieux chez nous. Mais alors, l'hôpital russe, c'est pas forcément super glorieux non plus. Pourtant, ils étaient dans les premiers à avoir un vaccin. Mais alors, les Russes avaient encore moins confiance dans leur propre vaccin que dans les vaccins des autres pays. C'est vous dire la confiance qu'il peut y avoir dans le domaine scientifique russe, je crois. À part pour envoyer des Spoutnik, le reste de la population n'a pas l'air très très sûr d'elle quand il s'agit de faire confiance à la technologie russe. Donc voilà, c'est la panique générale. C'est pas le seul pays. En Europe, on a la Bulgarie aussi qui panique beaucoup. Même problème, même problématique. Voilà, ce virus pourri va encore faire craquer tous les systèmes de partout pendant encore quelques mois. Et c'est difficile. Mais la Russie, comme d'ailleurs pas mal de pays, doit paraître un petit peu forte. Et on va parler justement brièvement d'armement. Puisque, alors c'est le Financial Times qui a révélé ça le 16 octobre dernier, donc il y a quelques jours, que la Chine avait effectué l'été dernier, depuis l'espace, un lancement de missiles hypersoniques qui a fait le tour de la Terre et qui allait atteindre sa cible. On ne sait pas ce que c'était que la cible, mais voilà. On va parler de ces nouveaux missiles supersoniques. Donc ce sont des missiles balistiques qui sont très différents des missiles classiques. D'habitude, pour lancer un missile balistique, on le lance en l'air, il fait une parabole. Enfin, on le lance, il fait une parabole, il tombe sur la cible. Et on peut assez peu, voire pas, modifier la trajectoire. Ces missiles hypersoniques sont différents. Ils font pas cette parabole. Ils peuvent changer de direction, ils sont commandables à distance. Donc ils vont un peu moins vite. Bon, c'est quand même 5 fois la vitesse du son, hein, parce qu'il faut aller... c'est une bombe dessus hein, qui va être. Hein. Mais c'est... Voilà, c'est pour l'instant donc plus rapide, moins rapide, mais efficace, précis et inarrêtable dans les technologies actuelles, puisque ça bouge, c'est ça. Ça suit pas une trajectoire où une fois qu'on a le début, on a deux points sur la trajectoire, on a compris la parabole et on peut le détruire à n'importe quel moment de la parabole, puisqu'on sait calculer les positions du missile sur tout le trajet une fois qu'on a le début en fait. Et ben là non, c'est pas le cas. Donc il y a un enjeu important. Alors là, la Chine vient de faire un essai, mais on se rappelle fin septembre, la Corée du Nord a fait pareil. Hein, ils ont lancé leur missile hypersonique. Les Américains ont fait pareil aussi. Ils l'ont lancé d'un bombardier, d'un B-52. Donc tout le monde est dessus. Les Russes, les Chinois, donc les Américains, les Nord-Coréens et la France, l'Allemagne, l'Australie, l'Inde, le Japon, et puis encore d'autres pays qui traînent, mais qui s'y intéressent. Mais là, si on suit le cas de la Russie, l'essai a été accompagné de vidéos pour montrer l'essai. En fait, les images sont super moches, super, presque même bien floues, et on se dit, ça ressemble plus à de la propagande qu'à un vrai essai. On sent qu'ils sont un peu largués, les Russes, même en technologie militaire, et qu'ils veulent pas le montrer, et que tout le monde est dans la course aux missiles hypersoniques. Donc ils ont fait, ils ont peut-être un missile, mais on sait pas bien s'il a atteint sa cible, etc. En tout cas, comme en Russie, comme ailleurs, les États continuent de mettre de l'argent dans des technologies militaires, alors que là, les Russes, ils ont le Covid qui galère, ils ont une partie de la population qui mange pas bien, voilà. Et c'est une fois de plus, de partout, hein, comme de partout, on détourne l'argent public qui pourrait être utile aux populations pour préparer des guerres futures qui seront néfastes aux populations. Voilà. Et la Russie fait finalement comme les autres. J'ai fait mon petit tour de la Russie pour aujourd'hui. C'est pas souvent.
Allez, on va parler Jeux Olympiques.
Ouais, ça, toi, par contre, t'aimes bien.
Ouais, j'adore les Jeux Olympiques. J'adore surtout taper sur les Jeux Olympiques. Alors, on va commencer 2022. 2022, c'est les Jeux d'hiver. Ça va être du 4 au 20 février 2022. Et ce sont les Jeux Olympiques de Pékin. Alors, on va tout de suite se mettre d'accord.
Il y a des montagnes à Pékin ?
Pékin, c'est pas Grenoble.
Ouais, c'est ça, il n'y a pas les montagnes autour. Hein.
Non.
Pas comme Grenoble.
Alors, pour tout vous dire, je me suis même rendu sur le site touristique du tourisme, l'office de tourisme Visit Beijing, pour me dire alors, elles sont où les montagnes qu'on nous recommande quand nous on est touristes, par exemple. Toi. Alors, bon, globalement, il faut au moins faire 100 bornes. Hein. Je l'avais déjà un peu compris quand je m'étais intéressée à ce qu'allait être ces JO 2022. Le problème n'est pas juste la distance, si tu veux. Donc déjà, c'est pas Pékin, hein, c'est ailleurs, autour. Je me demande même si jamais il n'y a pas... vous savez, la Chine, c'est grand, hein, ça vous savez. Et qu'il y a donc des petites régions comme ça, et j'arrive à me demander si on a une, on n'a pas rajouté le mot Pékin derrière pour faire croire que c'était la région de Pékin plus grande. Je suis plus juste des trucs. Hein. En tout cas, il y a des petits problèmes, c'est parce que Pamble, alors, il y a une des montagnes, je vais le dire avec mon accent pourri, ça, Xia He Shou, et ben, 90 km de Pékin, il y a un tout petit souci déjà.
Il n'y a pas de neige.
C'est qu'il y a 5 cm de neige par an. Donc déjà, cette montagne-là, elle va être un peu pourrie. Donc depuis l'année dernière, en fait, ça fait déjà depuis 2020 que c'est en action sur certains territoires, donc pour ces JO d'Olympique d'hiver de Pékin, c'est qu'il y a déjà des installations qui sont prêtes et il y a déjà les machines à neige qui sont lancées, parce que ben c'est déjà le problème, c'est qu'il n'y a pas de neige. Donc ça va être sympathique. En tout cas, vous savez donc que ça prend la place de Tokyo 2020 qui était en 2021, je m'en lasserai jamais de ça. Et donc il a fallu que la flamme, qui est transporté, vous savez, par des gens qui sont les heureux porteurs et porteuses de cette flamme magnifique.
Qui ne doit pas s'éteindre, tout ça.
Qui ne doit pas s'éteindre, mais en tout cas, des fois, ça arrive.
Hein, ouais. Soit par accident, soit parce qu'il y a des gens qui sont pas sympas.
Qui se jettent dessus. Ouais. Enfin, maintenant, ils ont des systèmes super techniques hein, pour l'éteindre. Il faut y aller un petit peu quand même. En tout cas, donc, elle se balade et à chaque fois, pour chaque nouvelle organisation, il faut aller chercher la petite flamme à Olympie. Hein, là où
Grèce,
il y a eu le berceau des Jeux antiques, comme on nous a expliqué. Et donc, il fallait en Grèce, bien évidemment. Et là, donc, c'est le vice-président du comité d'organisation de Pékin 2022, Yu Shengqing, qui s'est présenté pour récupérer cette petite flamme. Et il faut dire tout de suite que d'habitude, la flamme, elle court un peu partout, tout ça en Grèce. Bon, bah là, tout ça, ça a été écourté. Alors, soi-disant, c'est le Covid-19. Bon, ce qui est bizarre, c'est que tout ça, c'est quand même un peu en extérieur, et qu'en plus, en Grèce, ça fait partie de ces pays où on peut faire plein de choses en extérieur. Donc, on se demande bien pourquoi tout ça s'est raccourci. Alors, peut-être, c'est pour faciliter la présence de la Chine, parce qu'il y a un petit peu des problèmes déjà qui apparaissent. Alors, il faut dire qu'il n'y va pas de main morte, hein, ce vice-président du comité d'organisation de Pékin 2022, puisqu'il a dit... j'ouvre les guillemets. La flamme olympique va voyager jusqu'à la Grande Muraille et à travers d'autres parties de la Chine, apportant avec elle la lumière de la paix et de l'amitié. Bon, et ben pendant qu'il disait tout ça, il y a des Ouïghours, des Hongkongais et des Tibétains, et vous mettez tout ça évidemment au féminin et au pluriel, qui sur place ont tenté de manifester, sur place dans leurs régions respectives, ou ont fait des conférences de presse quand ces personnes sont en exil pour dire pardon.
L'amour, on le voit pas.
Hein, et puis l'amitié non plus, et la paix, tout ça, ça pose problème. Donc, il a fallu, a priori, raccourcir ces cérémonies de transmission de flammes, raccourcir toutes ces cérémonies, hein, parce qu'il va falloir quand même que la Chine ne soit pas trop mise en avant par rapport à ces problématiques des droits humains. Il ne faudrait pas non plus gêner la compétition sportive. Ce qu'on sait aussi, et c'est là où le Covid-19, ou la Covid-19, faites comme vous voulez, nous n'avons pas pris parti dans cette émission, a aussi bon dos, puisqu'il n'y aura pas de spectateurs et spectatrices étrangers et étrangères pendant ces Jeux Olympiques. C'est bien pratique ça aussi, de dire qu'il y a une pandémie, il ne faudrait surtout pas qu'en février 2022, on puisse ramener la maladie et le coronavirus chez nous. Mais des petites voix commencent à dire que c'est bien pratique aussi qu'il n'y ait pas trop d'étrangers et d'étrangères pour voir ce qui puisse se passer en Chine. Hein, parce que les journalistes, eux, ils seront bien cadrés. Vous voyez l'idée un peu ? Donc voilà, ça c'était pour donc 2022. Et puis alors en 2024, il se passe d'autres trucs. C'est à Paris. Hein, vous savez, on est heureux. Mais alors, heureux. Hein. Donc il y a des gens qui ont des bonnes idées. Et on va soutenir ces bonnes idées, même si c'est mal barré. On va parler de Tom Daley. Tom Daley, peut-être que vous savez qui c'est. Si vous ne savez pas, c'est un champion olympique de plongeon. Un jeune homme, plutôt, hein, puisqu'il est quand même encore sportivement à la pointe. Il a une idée, c'est qu'il veut faire des Jeux Olympiques de Paris 2024 un grand moment pour porter une idée toute simple, c'est interdire la participation des pays qui criminalisent l'homosexualité, ou au moins les pays où la peine de mort est appliquée quand tu es homosexuel. Moi, je trouve que c'est une bonne démarche. C'est mal barré, parce que Têtu, hein, ce qui était avant un magazine, qui est maintenant un site internet, en tout cas un média, a contacté le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 pour savoir ce que toute cette organisation en pensait. Est-ce que Paris 2024 soutient Tom Daley et va donc demander la non-participation des pays qui criminalisent les homosexuels? Alors, les réponses, comment vous dire? Là, avec ma main, vous savez, je fais le petit serpent. Ça, c'est pas prêt, on n'est pas prêt d'y arriver, hein, Tom, je te le dis. Alors, du côté de Paris 2024, on salue l'engagement de Tom. C'est bien les grands hommes et les grandes femmes qui savent prendre la parole, hein, pour faire avancer la lutte contre les discriminations dans le monde du sport, je cite. Il n'y avait pas grands hommes et grandes femmes, mais je pense qu'ils se l'ont bien dit à l'intérieur de leur tête. Ils estiment qu'effectivement c'est intolérable que l'on puisse en 2021 discriminer ou persécuter en raison de son orientation sexuelle. Bon, et après ? Eh bien après, rien, puisque Paris 2024 n'a pas de vocation à se prononcer sur la question et surtout n'en a pas le pouvoir.
Et alors là, voire pas l'envie, en fait.
Et bah, on peut se dire que rien n'empêche de Paris 2024 de trouver des moyens de soutenir Tom dans cette voie et de rappeler qu'effectivement, des compétitions avec des pays qui discriminent des personnes et certains et certaines de leurs athlètes, mais vont simplement avoir des pays comme la Chine, hein, qui répriment une partie de la population, voire font des actes absolument horribles sur les Ouïghours, par exemple, répriment à Hong Kong, occupent le Tibet, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je parle que de la Chine, parce que du coup, c'est redondant, vous voyez. Bon, alors, du côté de Paris 2024, on dit qu'il y a une charte d'engagement LGBT+, hein, c'est bien. On est content, elle a été signée en 2018 et du coup, il y a un label, tout ça.
Ouais, parce que
les labels, c'est bien.
C'est un des JO inclusifs, là, et c'est les autres qui sont méchants et pas inclusifs.
Voilà.
Mais on les dénonce pas.
Globalement, Tom, je pense que Paris 2024 ne t'écoutera pas, mais je pense que de toute façon, les Jeux Olympiques n'en ont pas grand-chose à faire de ces discriminations et surtout des droits humains, d'une manière générale, parce qu'il n'y a pas que cette problématique des atteintes aux homosexuels à travers le monde et donc de ces pays qui participent aux Jeux Olympiques. Il y a plein d'autres choses qui pourraient être mises en question et ce n'est pas le cas. Alors, on continue avec Paris 2024 puisqu'on a appris qu'il y a des nouveaux sponsors. Vous savez qu'il y a plein de sponsors pour les JO et cette année, c'est un peu difficile pour Paris 2024, on va y revenir. Mais on a appris que Sodexo a donc une filiale dédiée qui s'appelle Sodexo Live, parce que c'était pas live, c'était pas bien. J'adore les communiquer, vous savez, quand c'est en plus, ils sont pas forcément, vous les récupérez pas forcément sur les sites internet ou par voie de presse directe des entreprises ou des multinationales, hein, comme Sodexo. Et vous les retrouvez ailleurs. Et en fait, c'est marrant, parce qu'évidemment, il y a toute la propagande, mais voilà. Donc, on apprend que donc Sodexo Live s'est vu confier la restauration au village des athlètes. Bon, alors, en tant que sponsor, comment te dire qu'en fait, tu ne te vois pas confier hein, les choses. Tu participes financièrement à un grand événement, Paris 2024. Donc, on apprend donc que ça va mobiliser 1000 collaborateurs par jour. Il n'y a que des hommes, hein, collaborateurs. Ça, c'était pour la blague. Mais voilà, c'est toujours des collaborateurs, des gens qui sont là aussi dans.
J'aime leur boîte.
Voilà. Ouais. Vous voyez, vous l'avez eu en duo, c'était pas mal. Voilà, donc ils vont globalement faire à manger aux 14 850 athlètes. J'en mettais un peu de trou, excusez-moi. Et puis, ouais, toutes les délégations, il paraît qu'il y en a 206. Et puis, pour les délégations olympiques et 182 pour les délégations paralympiques. Donc, ils sont très fiers à Sodexo Live de participer à la performance des athlètes. Hein, je continue à souffrir. D'offrir aux athlètes une expérience mémorable à la hauteur de ce moment unique en s'associant à trois chefs talentueux et emblématique. Tout ça. Et en plus, Sodexo Live est fier de t'expliquer qu'il contribue à l'ambition environnementale et sociale de Paris 2024. Tout ça. Et là, on se dit, qu'est-ce que c'est vachement bien quand même. Alors, Tony Estanguet, qui est le président de Paris 2024, que nous adorons ici dans cette émission, explique qu'il est ravi que le groupe Sodexo rejoigne l'aventure des Jeux de Paris 2024. Avec Sodexo Live, nous avons fait le choix de l'expertise pour proposer un service de restauration optimal aux athlètes. Alors, à l'époque, je ne sais pas si Sodexo avait une expertise optimale en prison. Vous voyez, c'était aussi bien quand ils faisaient, vous savez, les petits repas pour les prisonniers et les prisonnières. Il y a aussi quelques remises en question sur l'expertise vachement bien dans les cantines scolaires, hein, tout ça. Bon, mais c'est pas le sujet du moment. Il paraît que Sodexo a besoin de redorer un peu son black son. Vous savez, à Marseille, en 2025, il y a une renégociation dans les cantines scolaires.
Ouais.
On attend à Marseille, du coup, avec les nouvelles municipalités, ça peut donner, je sais pas. Donc Sodexo prend le blason, le label Sodexo Live, on y va. Et donc on explique que les équipes de Sodexo Live, hein, parce que là aussi c'est des équipes avec les collaborateurs, et donc j'imagine qu'il y a des collaboratrices, qui vont capitaliser sur le savoir-faire et l'expertise unique en matière de diététique sportive. Bah merde alors, tout ça. Donc enfin c'est magnifique, donc il faut sortir un peu des sous, hein, et puis on apprend que... alors je peux vous dire peut-être juste, quand même vous parlez de Sodexo un peu, je vous rappelle... Ou je vous le dis, si vous ne saviez pas, qu'aujourd'hui c'est Sophie Bellon, 60 ans, qui est PDG de Sodexo. Elle est la fille de Pierre Bellon, hein, qui a créé Sodexo en 1966.
Ah oui, c'est une héritière.
Oui, mais c'est une boîte d'héritiers et d'héritières. En fait, comme papa n'avait pas décidé à ce qui allait prendre la succession, c'est le conseil d'administration. Ils se sont mis d'accord, donc c'est Sophie qui a été choisie. Mais c'est sa sœur Nathalie qui dirige Sodexo Live, dont je viens juste de vous parler.
C'est en famille, c'est sympa.
C'est sympa. Moi, je trouve que c'est chouette. En tout cas, ils ont viré Denis Machuel, le directeur général, hein, là, cet été. Le Covid a fait du mal au sein de Sodexo. Donc il y a un petit peu de la mobilité et puis il y a un poste à prendre, hein, directeur général, parce qu'il a été remercié. Il paraît que c'est une décision qui a été prise à l'unanimité par le conseil d'administration. Salut Denis, on pense à toi. Pour renforcer la compétitivité du groupe et accélérer la transformation, parce que Sophie, elle, ce qu'elle aime, c'est comme beaucoup de patrons des multinationales, c'est acheter. Donc c'est comme ça qu'elle veut développer Sodexo. Je rappelle Sodexo, hein, c'est une multinationale, hein, c'est à l'étranger. Et ben elle veut continuer à acheter, grossir. Donc là grossir. Donc là par exemple, elle s'est offert Sophie Food Cherry en France et Nourish et Foodie aux États-Unis d'Amérique. Donc il y a donc ce poste à prendre, hein, puisque il paraît qu'il Sodexo, je cite, a besoin d'aller stronger and faster. Donc en plus, alors il y a un poste à prendre, mais il faut parler l'anglais un petit peu. Mais si tu sais dire stronger and faster, a priori, ça peut le faire. Donc là, elle a missionné un cabinet de recrutement pour trouver l'œil externe, je continue à citer, qui sera impulsé à un redémarrage, a priori. Une personne qui doit avoir une dimension internationale et une fibre humaine.
Elle n'a pas d'enfants ou de cousins disponibles, en fait, c'est ça?
Alors c'est parce qu'il y a 11 petits-enfants, ils sont tous actionnaires, donc il paraît qu'ils sont tous encadrés aussi pour que ça continue à bien se marrer. Alors du côté des autres sponsors, on a appris qu'il y avait Decathlon qui allait se mettre sur l'affaire, enfin qui aide, hein, dans l'affaire, et va lancer Decathlon, le multinational aussi, hein, maintenant partout vous êtes dans le monde.
Pour le coup, un sponsor d'une épreuve sportive, c'est un peu plus
Donc il paraît que Decathlon va habiller les bénévoles, tu sais, et celles qui participent à
ils vont avoir tous des trucs quelque chose, ça va être drôle.
Ils ont changé, c'est plus quelque chose, ils ont changé. Tu suis pas. Alors Decathlon va lancer le 30 octobre, c'est bientôt là, une première collection capsule, c'est-à-dire un truc un peu particulier, rien que pour les Paris 2024.
Ouais, parce qu'ils sont sponsors, il faut qu'ils gagnent de l'argent, donc il faut vendre du merch.
Ça veut dire que tu vas porter toi-même Paris 2024 sur ta tronche. Tu vois, sur ta tronche, en tout cas sur tes vêtements. On ne connaît pas le montant de l'engagement de Decathlon, puisque je vous rappelle que sur les sponsors, il y a différents niveaux. Et qu'il y a les sponsors mondiaux, du style Coca-Cola, Samsung, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, Alibaba, Airbnb, ça c'est les mondiaux. Et puis vous avez la FDJ qui met beaucoup d'argent hein, aussi. Et puis après, vous avez des gens comme Decathlon et Sodexo. Et puis on retrouve la BPCE, EDF, Sanofi, Orange. Hein, ça vous fait plaisir si vous travaillez, vous aimez votre boîte hein, parce que tout ça, là, ça va sur les JO. Alors il paraît que ça rapporte. Donc ça serait quand même 30 euros hein, le prix du t-shirt Decathlon Paris 2024. Il y en aura 10 000 exemplaires, c'est capsule, je te l'ai dit. On va bientôt sortir une collection à Radio Canu.
On va l'appeler Paris 2024.
Non, on va l'appeler Radio Canu Forever. Et le t-shirt, il ne sera pas à 30 euros. Hein. Déjà, on peut vous le dire. Commencez pas à faire des réservations, c'est pas prêt, tout ça. Mais en tout cas, vous aurez le moyen de vous vanter de porter autre chose que du Decathlon. Enfin, on l'espère, en tout cas. Donc, pour l'instant, il y a un peu du mal à trouver des sponsors à Paris 2024. La problématique, elle est que Tokyo 2020, qui a eu lieu à 2021, a un peu ralenti le processus, le Covid aussi. Et puis, de fait, Paris 2024, avec Tokyo 2020, qui était en 2021, a perdu une année. Et que donc, les sponsors, au lieu de pouvoir utiliser pendant 4 ans les anneaux, ne pourront les utiliser que pendant 3 ans. Donc il y en a qui se disent, oula, on se fait un peu gober cette année, c'est pas bien. Et puis il y a un problème, c'est qu'il y a de la concurrence à l'arrière. 2028, j'en ai même pas parlé, c'est Los Angeles.
C'est un JO aussi, ça.
Eh ouais, 2020, ah bah oui, JO ouais. 2028, Los Angeles. Et que Los Angeles, c'est les États-Unis d'Amérique. Beaucoup des sponsors sont aux États-Unis d'Amérique. Et qu'on peut penser que certaines entreprises se réservent peut-être aussi pour Los Angeles. Donc pour l'instant, il paraît qu'il manque plusieurs millions. Je crois que précisément il en manque 400 millions d'euros, donc il y a encore un peu du temps hein. C'est pas tout de suite là, 2024.
Ils ont qu'à jouer au loto.
Ah, c'est vrai, on aurait pu leur conseiller ça, FDJ partenaire, tout ça. Mais c'est vrai que ça manque quand même de grands annonceurs. Alors il paraît qu'ils essayent de tirer ceux du luxe, parce que c'est un secteur qui a bien résisté pendant la crise sanitaire du Covid, et que ça pourrait ramener des sous. Et pour aller plus loin, je veux dire jusqu'à 2032, c'est Brisbane, hein, en Australie, ça vous parle, ouais. Qui donc a aussi des JO, aussi pareil, qui sont ravis aussi là-bas. Le gouvernement australien a reconnu mardi qu'il y avait un petit problème de dépassement déjà du budget.
Non mais 2032, t'as dit ?
Ouais.
On a un peu de marge.
Ouais, mais ils savent déjà que ça va coûter plus cher, c'est-à-dire qu'il y a de la marge et on sait déjà qu'ils sont dedans.
Il faut qu'ils exportent du Congo.
Donc on sait que plus, je sais pas, que plus on commence à savoir tôt qu'il y aura un petit problème d'argent, plus ça va s'accentuer. Ça a été à chaque fois comme ça. On parle de 5 milliards de dollars australiens, ça fait 3 milliards 200 millions d'euros. Ils savent qu'ils vont dépasser ce montant et que ça commence à mal le faire. Parce que quand il faut motiver toute une population jusqu'à 2032 pour leur dire « Mais non, c'est pas cher !» Mais non, parce qu'en fait, ce que j'ai retenu quand même de ces informations données par Marlène Mazur, qui est la directrice commerciale de Paris 2024, je la cite « Il ne faut pas voir les Jeux comme une source de dépenses. Il faut voir les Jeux comme une opportunité de répondre à des marchés, des Jeux en premier lieu, d'ouvrir de nouveaux marchés, de collaborer entre partenaires, FDJ tout ça, avec l'ensemble des prestataires qui vont livrer les Jeux. » En fait, c'est un grand moment pour toi. Et tu vas aimer ta boîte encore plus derrière.
Ouais, elle a jamais parlé de sport, en fait, c'est juste un prétexte. Allez, on va parler des extrêmes droites maintenant, avec quelques petites infos pour tomber sur l'info lyonnaise, parce qu'il y a une actualité lyonnaise. Alors, sur l'extrême droite, il y a une actualité lyonnaise tous les jours, mais une plus importante que d'autres. On va parler de la peine qu'a eu une femme qui s'appelle Cassandre Fristreau, qui a brandi une pancarte antisémite lors d'une manifestation anti-pass sanitaire début août. Elle est enseignante d'allemand, ancienne membre du Front National, c'est une militante raciste, une militante d'extrême droite. Hein. Et donc, elle a été condamnée à 6 mois de prison hier, avec sursis pour provocation à la haine raciale par le tribunal correctionnel de Metz. C'est une peine plus lourde que ce qu'avait requis le parquet, donc c'est à signaler, puisque le parquet avait requis 3 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité. Ça, j'ai pas suivi si elle avait pris pour ça. En tout cas, cette militante d'extrême droite a même pas daigné se déplacer ni à l'audience du 8 septembre, ni mercredi pour le rendu du jugement. Elle a été aussi condamnée à verser 1 euro symbolique et 300 euros à 8 des associations qui s'étaient constituées parties civiles. Voilà, elle a 10 jours pour faire appel. Stratégiquement, je pense qu'elle n'a pas intérêt à faire appel, hein. Mais voilà. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on retrouve chez cette militante particulièrement, et sur pas mal, hein, d'extrême droite, c'est son absence de courage, le fait qu'elle soit pas allée au procès, et puis le fait qu'elle ait sorti cette affiche qui est une vision indirecte de l'antisémitisme, pour pas que ça soit, pour pas qu'elle soit attaquée, qu'elle évite une sanction pénale. Ça n'a pas marché. D'abord, le tribunal ne s'y est pas trompé. Tout le monde est au courant de ce qui était écrit dessus. Donc voilà, on rappelle que autour de ce fameux mais qui, point d'interrogation, cette question laissant entendre mais qui sont les responsables de tout ça, elle avait noté des responsables politiques, des hommes d'affaires, des intellectuels, quasiment presque tous juifs, donc forcément voilà, avec écrit traître. Alors on sait que mais qui, hein, c'est pas un slogan sorti du cerveau un peu abîmé de cette dame, non, c'est un truc, c'est un général à la retraite, hein, Dominique de Lavarde, qui l'avait sorti sur CNews à partir d'une tribune qu'il avait fait sur le torchon d'extrême droite de Valeurs Actuelles, où il évoquait le délitement de la France, et quand l'animateur lui avait posé, parce qu'il avait dit, posez-vous la question de qui contrôle la meute médiatique, et il avait insisté, l'animateur, et il avait dit, mais vous savez, la communauté que vous connaissez bien. Et donc tout le monde sait qu'ils visent les juifs c'est responsable, ils sont responsables du voilà, de toutes les maladies, c'est eux qui dirigent le monde, on le sait tous, il y a toute cette idée du qu'on retrouve dans un livre qui est encore qu'on trouve encore, hein, dans certains pays, le protocole des chasses de Sion, là, où il y aura une instance juive internationale qui dirigera le monde. Et donc, c'est de ça dont est issu le mec qui, donc un vrai truc antisémite. Donc voilà, elle encourait quand même un an de prison et 45 000 euros d'amende. Moi, j'aurais tapé plus fort sur l'argent, parce que voilà, je pense que c'est un truc qui peut faire mal. Donc voilà, ça fait plaisir, parce qu'elle a tout fait pour pas... Bon, forcément, hein, elle a nié jusqu'au bout, elle a joué la naïve, elle n'est pas venue au procès, alors que tout le monde sait que c'est une militante. Elle s'est présentée au nom du Front National, c'est une militante d'extrême droite, qui porte habituellement, hein, ses valeurs d'antisémitisme traditionnel. Et donc voilà, donc ça fait un peu plaisir quand même qu'elle ait été condamnée. On va parler d'un truc à la fois, enfin un truc que j'ai trouvé un peu drôle. Sur l'extrême droite, c'est pas tous les jours qu'on trouve des trucs drôles. En fait, il y a des affiches qui ont été jugées par certaines menaçantes, qui sont apparues dans la nuit du 18 au 19 octobre dans le centre-ville de Poitiers. Elles visaient un établissement scolaire privé catholique qui s'appelle l'Union chrétienne de Poitiers, qui accuse, donc les affiches accusaient l'établissement, où on sait pas bien en fait, l'établissement ou l'enseignement catholique, d'homophobie, de transphobie et de propos haineux et réactionnaires. Donc on apprend par les différentes presse qui en ont parlé, notamment France Bleu, que la police a pris l'affaire très au sérieux. Alors bien évidemment, un collage fait par des gauchistes qui dénoncent l'homophobie des instances catholiques, des institutions catholiques, les flics ils enquêtent, hein. On sait très bien que quand c'est des trucs de l'extrême droite, à part quand il y a des risques d'attentats, le reste il n'y a pas d'enquête, hein. Donc forcément ils vont faire un truc sérieux. On souhaite bien du courage à celles et ceux qui ont fait qui ont collé ces affiches. Donc pour revenir un peu à l'affaire, les affiches qui ont été placardées sur les portes du collège, près de la cathédrale, enfin tout auprès d'institutions, d'instances, de groupes catholiques, disaient nous dénonçons cet enseignement qui entretient le sexisme, l'homophobie, la transphobie, en diffusant par exemple des stéréotypes de genre binaires et traditionnels. Mais ce qui a énervé, c'est parce que ça on le sait tous qu'il y a ça dans l'église, mais ils ont mis en dessous brûler l'usine à fachos, et ils ont mis le logo de l'établissement catholique avec des flammes. Et donc c'est ça, tout le monde dit c'est une menace, ils sont méchants, tout ça. Les auteurs, qui sont anonymes, précisent, hein, qu'ils s'attaquent à la montée de l'extrême droite en France, et notamment localement à Poitiers, auquel, disent-ils, ce genre d'établissement permet la montée en puissance de cette extrême droite qu'on connaît bien ici, mais qui est donc aussi présente à Poitiers et malheureusement un peu partout. Alors, Il n'y a pas que les flics qui ont été, qui ont vu les affiches. Il y a aussi la communauté catholique, en tout cas une partie. L'école, c'est une grosse école. Il y a 700 élèves. C'est une petite ville, hein, Poitiers. 700 élèves. Ça va de la maternelle au lycée, donc c'est pas tant que ça. Mais en tout cas, la direction s'est dit choquée. Vous allez voir, la réponse est assez intéressante puisqu'ils ont c'est le Christian Brun qui est le président de l'association des parents d'élèves de cette école Union chrétienne là, qui a dit c'est une liste de calomnies qui sort de nulle part. Cette école, on l'aime, on l'a choisie et on y est attaché. Et après, il précise que, il souligne que l'école accueille toutes les religions et toutes les origines. En fait, c'est pas ça qui est reproché dans les affiches. Ce qui est reproché aux affiches, c'est la question de l'orientation sexuelle, de l'homophobie, de la transphobie, de toutes ces choses-là. Et lui, il répond, mais on accueille toutes les religions et les origines. On louvoie. Pourquoi? Bah, parce que, effectivement, il y a toutes les chances que cette école, elle, participe, elle aussi, à véhiculer ces idées homophobes et transphobes qu'on a régulièrement dans quasi toutes les instances chrétiennes et catholiques, particulièrement ici. Voilà. On rappelle quand même, il y a plein d'histoires qui sont sorties récemment. Début septembre, c'est celle-là que j'ai gardée, celle du Parisien qui relatait le témoignage d'un professeur vacataire de l'Essonne qui a déposé 2 plaintes. Il a fallu 2 plaintes pour que le parquet lance une micro-enquête. On espère que ce sera une vraie enquête. Qui a subi un harcèlement homophobe et des menaces de mort. C'était dans un établissement catholique de Notre-Dame de Sion à Évry-Courcouronnes. Il enseignait là-bas depuis 2020. Il explique, je cite, « Dès mon arrivée, on m'a fait comprendre que j'étais pas à ma place, qu'on aurait ma tête. On m'a traité de collabo, de petite pute, de sale pédé, et lancé qu'un homosexuel n'avait pas sa place dans un établissement catholique. » Donc il explique qu'il y a 10 collègues qui s'en sont pris à lui, qui l'ont stigmatisé, méprisé, insulté. Et il n'y a pas eu, bien évidemment, de réponse des instances catholiques. Alors c'est pas le cas dans toutes les institutions catholiques, bien évidemment. C'est pas mal lié aux êtres humains qui sont présents sur place. Là, c'est quand même des profs, en partie, en plus de l'institution, qui l'ont attaqué. Donc voilà, du coup, on souhaite quand même qu'ils chopent pas les couleurs d'affiches, parce qu'il y a un vrai problème d'homophobie dans l'Église catholique. Et dans les institutions en général catholiques. On va aller à Rome maintenant, toujours sur l'extrême droite. Et c'est un truc plutôt positif, puisque un très très grand nombre de personnes ont manifesté à Rome samedi dernier contre l'extrême droite. On rappelle les faits, en fait, la semaine d'avant, le 9 octobre, plusieurs milliers de personnes avaient participé à une manifestation d'extrême droite, majoritairement d'extrême droite, contre l'introduction de la carte verte, c'est l'équivalent du pass sanitaire en Italie, et plusieurs centaines de personnes s'étaient extraits de la manifestation, ils n'étaient pas non plus hyper nombreux, dirigés par 2 dirigeants d'un petit parti fasciste qui s'appelle Forza Nuova. Ils ont essayé de s'attaquer au Parlement, ils ne sont pas arrivés, et après ils ont cassé le siège de la CGIL, la plus ancienne confédération syndicale du pays, c'est la Confédération Générale Italienne du Travail. Et donc cette manifestation est en réaction à ces manifestations d'extrême droite. Il y avait aux alentours de 100 000 personnes à Rome, donc c'est au moins 10 fois plus que les manifestants fascistes des semaines d'avant. Donc voilà, ça fait plaisir. Tout ça pour dire que à Lyon, ce samedi, il y a une manifestation contre le racisme, contre l'extrême droite, contre tout ce qu'on vit ici à Lyon, qui est connu comme étant, je cite, un laboratoire de l'extrême droite, et malheureusement c'est vrai. On subit de multiples agressions, Radio Canu a été attaqué plusieurs fois, le Parti communiste a été cassé moult fois, ils ont attaqué des bars, la librairie de nos copains La Plume Noire a été attaquée plusieurs fois, encore très récemment, et puis ils attaquent, voilà, pareil, hein. Ils croisent quelqu'un qui leur plaît pas, alors que ce soit lié à l'orientation sexuelle ou à la couleur de peau, et ça tabasse à tour de bras. Donc face à ça, face au fait aussi que l'État louvoie, notamment la justice lyonnaise, puisque on interdit officiellement certaines structures d'extrême droite, mais on leur laisse l'existence à travers des locaux comme la Traboule, la Gaugée, qui sont situés dans le Vieux Lyon. C'est des attaques. On les interdit pour montrer aux médias qu'on fait quelque chose, mais dans les faits, on les empêche pas d'exister et d'avoir pignon sur rue. Et c'est contre ça aussi qu'il y a une mobilisation samedi contre toute ces extrêmes droites. Donc ça sera à Place Bellecour, on sera le 23 octobre et ça sera à 14h30.
Alors, il nous reste 12 minutes, il nous reste 3 sujets, il va falloir...
Mon sujet sera très court à la fin.
Alors, on va partir dans la Manche et on va parler de la caisse primaire d'assurance maladie qui a réussi à faire parler d'elle,
ouais,
alors que...
Mais c'est juste énorme,
tout,
en fait.
Toutes sont tamponnes. Alors, ouais. Vous êtes peut-être au courant, du coup, peut-être que ça vous fait marrer, mais quand même, ça pose quelques questions. Les salariés de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ont reçu une proposition pour lutter contre la grippe saisonnière, hein, qui va bientôt arriver. Vous savez, vous pouvez commencer à vous faire vacciner. Et dans le courrier, il est écrit « Au vu du contexte sanitaire lié à la Covid-19, seul le traitement homéopathique contre la grippe sera proposé. »
C'est drôle parce qu'il n'y a pas de traitement qui est homéopathique réel et il n'y a aucun traitement homéopathique qui marche. Alors, c'est l'assurance maladie qui met en avant une fausse science.
Oui, rappelons-le, hein, si tu peux prendre tout l'homéopathie du monde, si tu n'attrapes pas la grippe, tu attraperas la grippe. Enfin, je veux dire, voilà. Et après coup, ça ne te soignera pas non plus. Donc, ni avant, ni après, pas d'homéopathie. Ça ne sert à rien de donner des sous à Boiron, par exemple. Hein, on garde ses sous pour faire autre chose. Bon, ce qui est curieux, c'est que, on sait bien, hein, depuis l'avis de juin 2019 de la Haute Autorité de Santé, qu'aucune étude robuste n'a démontré la supériorité en termes d'efficacité des médicaments homéopathique, le mot médicament déjà me choque dans cette déclaration, par rapport à des traitements conventionnels ou au placebo, c'est ça qui est dingue quand même, hein, que je vous rappelle avec l'homéopathie, c'est que c'est pas mieux que le placebo, ça, c'est quand même, faut se le mettre dans la
même
tête.
Même si le placebo peut être fort.
Et ça, et nous on en est persuadés ici, c'est un effet scientifique sur lequel il commence à y avoir beaucoup d'études,
ouais,
maintenant.
Pour certaines maladies, l'effet placebo est très efficace, incroyable.
On n'est pas là pour parler de ça, on a déjà parlé 12 fois de l'homéopathie, mais ce qui est intéressant, c'est comment ce courrier a pu arriver jusqu'aux salariés de cette caisse de la Manche. Alors ça fait se poser la question à la direction quand même, qui a décidé de réorganiser son circuit de validation des actions mises en place en direction du personnel. Je cite, est-ce qu'il y a quelqu'un soit qui s'est tapé un bon gros délire sous champi quand même, hein, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, mais sous champi.
Où ils ont un intrus de chez Boiron.
Une intrus sinon.
Ou une intrus, oui, de chez Boiron.
Beaucoup aiment beaucoup l'homéopathie, on
peut dire que c'est une
femme. Ouais, bah là on n'a pas la réponse. J'espère qu'il y a quand même un peu une enquête en interne pour savoir comment cette chose a pu arriver jusque aux salariés, qui non seulement dit que le seul traitement proposé sera homéopathique, c'est-à-dire que c'est pas vous pouvez avoir un vaccin ou de l'homéopathie. Hein, parce que le vaccin homéopathique, je ne sais pas encore.
Ils ont essayé, je crois.
Mais, bon, voilà. Là, on se demande, il y a quand même un truc qui ne va pas chez vous dans la Manche, là-bas, à la caisse primaire d'assurance maladie. Il va falloir un peu, peut-être, aller tâter pour savoir qui c'est qui a merdouillé. Mais peut-être, encore une fois, que quelqu'un a pris trop de champis, quoi. Allez, à toi.
Alors, très très court, je reviens sur la peine de mort très rapidement. Et ce qui s'est passé au Mali, en fait, ce week-end. Donc la France, officiellement, et notamment à travers certains membres du gouvernement, ont commémoré, nous on en a parlé, hein, de ce truc assez incroyable qui était l'abolition de la peine de mort en 1981. Et pourtant, cette même France, avec ces mêmes membres du gouvernement, trouve le moyen de continuer à assassiner. Mais, on le fait pas ici, on le fait ailleurs. Et l'exemple le plus flagrant, c'est au Mali. L'information a été donnée aujourd'hui, le 21 octobre. C'est l'état-major de l'armée française qui détaille les faits. C'est Nasser Halterghi, membre du groupe terroriste GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui a été assassiné donc par l'armée française. Ça s'est passé, ils l'ont repéré vendredi dernier, le 15 octobre, dans un véhicule avec 5 individus. D'après les différentes sources de renseignements, il y avait bien dans ces individus Nasser Halterghi. Donc le véhicule se dirigeait vers le sud du Mali et le samedi, ils ont frappé, ils ont envoyé 2 missiles sur la voiture. Ils ont, j'imagine, tué tout le monde. Ensuite, un commando est allé faire les vérifications et a constaté la mort, notamment de Nasser Halterghi. Alors ce personnage, donc a priori quand même pas mal méchant, peu recommandable, a donc été assassiné par la France sans aucun procès, pile au moment de l'anniversaire de l'abolition de la peine de mort. Triste ironie, triste mensonge de Macron et du gouvernement, triste réalité d'une armée qui continue de tuer, de mutiler, d'assassiner. Son élimination samedi dernier intervient au même moment où le régime malien annonce une négociation avec ces groupes terroristes. Et on se dit, mais ils se parlent pas, l'armée française et le Mali ? C'est peut-être autre chose qui s'est passé. C'est peut-être que la France, elle apprécie pas bien que le régime malien discute avec les djihadistes du GSIM. Et du coup, hop, un petit coup pour faire une petite menace sur le Mali. Franchement, hein, Macron, va jusqu'au bout de ton néocolonialisme, occupe le Mali, prends le pouvoir, va jusqu'au bout de ton colonialisme là, nauséabond. Là. Parce que, voilà, c'est quand même assez incroyable que la France se permette de faire ça, de véhiculer, de continuer finalement l'assassinat d'État, mais ailleurs et en servant de l'armée, parce que c'est quand même un poil plus pratique. La France-Afrique n'est pas morte, malheureusement.
Alors, on va terminer par un truc un peu plus rigolo, si tu veux bien.
Oui. Ça peut être que plus rigolo.
Mais si, oui, ben oui, c'est pour ça que je le dis. Nous aimons bien l'art sous toutes ses formes, mais nous partons cette fois en Autriche, à Vienne. Vienne qui a besoin de faire revenir ses touristes, puisque sur la période forte des confinements, comme toutes les villes touristiques, Vienne a perdu pratiquement 80% de ses touristes étrangers. Donc c'est une ville qui essaye de faire revenir les touristes, mais qui a aussi besoin certainement de changer son image, hein, parce qu'entre musique et gâteau à la crème, il y a peut-être aussi besoin de redynamiser un certain type de touristes, peut-être plus jeunes et qui iront peut-être écouter Mozart, peut-être aussi manger les gâteaux à la crème, mais peut-être aussi fréquenter les musées. Et c'est bien de ces musées dont on va parler, puisque l'Office du tourisme a eu une idée, ma foi, tout à fait intéressante. L'Office du tourisme de Vienne a lancé une grande campagne qui s'appelle Vienna Strips on OnlyFans. Vienne se déshabille sur OnlyFans, c'est donc le slogan de cette nouvelle campagne de l'Office de tourisme de Vienne. Alors OnlyFans, si vous savez pas ce que c'est une plateforme donc web bon, plus de 18 ans sur lesquelles créateurs et créatrices proposent leur travail, donc tu t'abonnes hein, pour voir les contenus des créateurs et des créatrices, et sur lequel effectivement on retrouve aussi beaucoup de pornographie, mais ça a aussi permis aux travailleurs et travailleuses du sexe de travailler pendant les périodes du confinement, donc de pouvoir aussi utiliser une plateforme mise à leur disposition. Il faut savoir donc que tu payes un abonnement, hein, les fans récupèrent une commission. A priori, pour ce que j'en sais, c'est près de 20% hein, sur les abonnements. Et pendant la période du confinement, OnlyFans a vu son chiffre d'affaires s'envoler. Et bah oui, parce que travailleurs et travailleuses du sexe, plus la pornographie a fait exploser le nombre d'abonnements. Ce sont plus simplement les créateurs et créatrices de musique. Parce que,
Il y a aussi la musique.
Bah, c'est comme ça. Les plateformes de ce type, il y en a un certain nombre. Hein. D'ailleurs, on voit aujourd'hui des rappeurs aux États-Unis d'Amérique sortir ce genre de plateforme parce qu'elles essayent toutes de se concurrencer et de se définir simplement ce qui fait c'est pas forcément les créateurs et créatrices de musique, les rappeurs et les artistes, c'est effectivement l'industrie du sexe qui rapporte le plus et en particulier à ces plateformes. Alors, donc Vienne, pourquoi Vienne se déshabille sur OnlyFans ? Parce que les musées de Vienne en ont ras-le-bol de pas pouvoir vanter ce qu'il y a dans leur musée accroché à leur simèse.
Oui, parce qu'en fait, ils ont des œuvres de Kokoschka, de Klimt, comme ça, qui sont assez déshabillés, c'est ça que tu veux dire ?
Exactement. Et se retrouvent dans l'impossibilité de pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux et commerciaux traditionnels, habituels. Quand je dis traditionnels, c'est ceux
Facebook,
qui sont
tout ça
en monopole. Twitter, Facebook, Instagram,
et pour qui un bout de corps humain est une horreur absolue.
Ouais, même quand elle est peinte par un artiste qui est mort depuis 200 ans. Ça leur pose un problème, donc assez plateforme. Il y a tout un tas d'exemples qui a été donné par l'Office du tourisme pour s'expliquer. Et donc, pour pouvoir faire de la communication...
J'avais pas pensé, tu vois, ce truc.
Va sur les plateformes de plus de 18 ans pour dire, eh ben voilà, on vous montre ce qu'on a en ce moment en exposition, regardez comme c'est beau. Et oui, il y a du téton. Et oui, il y a même peut-être, si ça se trouve, un pénis. Allez savoir. Alors, évidemment, c'est... un moyen de communiquer, mais c'est aussi un moyen de faire un peu du buzz hein, sur cette affaire. Et l'objectif, on va dire, est aussi de dénoncer cette censure que rencontrent les musées viennois, mais pas seulement, hein, d'une manière générale, les artistes sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok dont je viens de parler. Il y en a d'autres, hein, allez-y, hein, prenez ceux sur lesquels vous êtes de ces réseaux commerciaux. Donc l'idée, c'est d'aller se replier ailleurs, de faire un peu du buzz, et puis l'Office de tourisme propose quand même aux premiers et premières adultes, hein, plus de 18 ans, qui vont aller s'abonner sur leur compte, donc sur OnlyFans, de recevoir quelques cadeaux à des tarifs préférentiels, tout ça. Bon, OnlyFans, c'est pas mal parce qu'en fait, cet été, ils avaient annoncé...
La fin des trucs porno, c'est
ouais,
pas ça,
ouais. Tout à fait. Et puis, tout de suite, étaient revenus dessus, puisque les travailleurs et travailleuses du sexe étaient montés en créneau en disant, attendez, nous, on a besoin de la plateforme. Mais le problème de ces plateformes, c'est que dès qu'elles ont de la pornographie ou du travail du sexe, se retrouvent avec des banques qui mettent des bâtons dans les roues, hein, ce qui était arrivé à d'autres réseaux sociaux et commerciaux, où les banques s'étaient retirées, donc plus personne ne voulait encaisser l'argent. Ça a été le problème de OnlyFans cet été, mais finalement la plateforme est obligée de faire marche arrière parce qu'il y a besoin de faire du pognon quand même avec les travailleurs et travailleuses du sexe et la pornographie. Mais le problème, c'est que si OnlyFans arrête aussi ce rapport au sexe, eh ben, c'est que ça devient une plateforme comme toutes les autres. Et comme je vous le disais en introduction, il y en a beaucoup, beaucoup de ces plateformes qui sont en train d'émerger. Elles ne vont pas toutes pouvoir survivre. Donc c'est aussi une réalité. Voilà, Vienne fait du buzz OnlyFans, mais Vienne a peut-être aussi besoin de survivre aussi avec son tourisme.
Ouais, et puis si ça casse un peu le truc un peu protestant de toutes les plateformes américaines qui sont allergiques à n'importe quel bout de corps humain, là, ça nous fera du bien quand même.
Voilà, et ben pour ce soir c'était tout, on a terminé un peu... Au taquet.
Ouais, il nous reste 20 secondes.
Juste le temps de vous dire que ce soir, vous allez retrouver l'équipe de La Petite Cuillère, juste après. Que nous, on se retrouvera la semaine prochaine, premier juré. On ne va pas s'absenter non plus toutes les semaines, même si c'était très sympathique d'aller voir les orgues de Barbac, quand même, jeudi dernier, au Radio Bellevue. Réécoutez-les, vous verrez, ça vous fera plaisir et ça vous fera danser dans votre tête et dans votre corps. Que dire de plus? Il y a des bandes musicales superbes aussi sur Radio Canu. Et tout de suite, c'est La Petite Cuillère.
Ouais, bye. Ciao. Bye.